Bonjour Cybil et bonjour à tous. Je vous ai manqué? Allez, avouez que mes éternelles chroniques à base d'antisémitisme et encore d'antisémitisme et le tout relevé de temps en temps par un petit tacle envers la France insoumise, ça vous avait manqué. Excusez mon absence, je suis partie ces derniers mois observer le monde et comment il se portait après 2 années où nos universitaires, nos hommes politiques, nos activistes des réseaux sociaux et nos journalistes nous ont fait croire que les droits de l'homme, ça allait de Paris à Gaza. Alors à force, j'avais moi aussi fini par croire que tout le reste du monde était un no man's land, un désert sans fin. Donc j'ai quand même voulu aller voir ce qui se passait au niveau du droit international et des droits de l'homme, justement dans ces 99% du globe complètement ignorés de notre compassion collective. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, en dehors de Gaza, il y a bien des pays entiers et des vies humaines qui s'épanouissent et qui existent. Le monde continue, sans la menace de ce cher impérialisme fasciste nazio-sioniste, comme l'aime à le décrire tout bon militant obsessionnel. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en réalité, c'est un peu la merde partout. Il y a des crises dans absolument chaque coin du globe. Et la plus encore mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde, à commencer par nos chères instances internationales, semble royalement s'en foutre. Alors, vous allez me dire, oh mais Sarah t'exagères, on a quand même bien parlé des femmes afghanes cette année. Absolument Michel, mais c'est quand la dernière fois que t'en as parlé? Parce que la presse a cessé de s'intéresser au sujet à peu près à l'été 2025. Oui, parce que ça commençait à sentir un peu le réchauffé, toutes ces mesures prises par les talibans contre les femmes qui se résumaient juste à interdire absolument tout. Bon, d'accord Sarah, tu vas me dire encore, mais le Soudan, on en a parlé aussi. Absolument Michel, je suis d'accord, tu en as parlé, pendant exactement 5 minutes 45. C'est à peu près le temps qu'a duré l'engagement international après le massacre d'El Fasher. Depuis, tout le monde est passé à autre chose, autant d'une petite indignation collective et de rebooster son ego grâce à des stories indignées sur Instagram. Et les Soudanais ont continué d'être massacrés dans la plus grande indifférence collective. Bon, ok, tu vas me dire encore, mais l'Iran? Non, toujours pas Michel. À part les Iraniens, les Juifs et les quelques rares soutiens ayant conservé un semblant d'honneur, la révolte iranienne n'a pas soulevé les foules. On attend toujours la une de Libération ou de l'Humanité à ce sujet. Bon, et le Venezuela? Bien essayé Michel. Mais tu connaissais, toi, le régime de Maduro avant sa capture par Trump et ses cow-boys? Non. Tu vas le connaître après? Non plus. Voilà, je pense qu'on a compris l'idée que les droits de l'homme et le droit international, c'était vraiment en fonction de la tendance politique et sociale du moment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on pourrait croire qu'au niveau de ceux-là même chargés de veiller au respect de ces droits, qu'on se débarrasserait de ces compassions opportunistes et clientélistes. Donc je me suis dit, ok, sur mon feed Instagram, on milite tous en fonction de nos intérêts personnels. Mais à l'ONU, l'ONU qui est chargée de veiller à la paix mondiale et à la protection de toute vie humaine sur un pied d'égalité, j'imagine qu'on aura quand même veillé en 2025 à lutter contre l'ensemble des conflits dans le monde et à dénoncer toutes les injustices. Ça me fait penser que je dois ajouter une résolution supplémentaire à ma liste de 2026, cesser d'être naïve. Alors, allons-y pour répondre à cette question. Je vais juste informer à titre préliminaire que je ne parlerai pas du nombre de morts dans les conflits en cours, tant il est difficile de donner une source fiable à ce sujet. Donc on va plutôt se concentrer sur les vies humaines et sur la gravité des situations humanitaires. Et pour cela, je vais utiliser les chiffres avancés par l'OCHA, le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Humanitaires. Alors sachez que la première crise humanitaire au monde en 2025 a été le Soudan, avec 30 millions de personnes dans un besoin urgent d'assistance humanitaire. Vient ensuite l'Afghanistan et ses 22 millions, le Congo et ses 21 millions, 19 millions pour le Yémen et la Somalie, 16 millions pour la Syrie, le Myanmar et 10 millions pour l'Éthiopie ou l'Ukraine. Au total, l'OCHA a recensé environ 24 crises humanitaires dans le monde. Et la seule qui a monopolisé toute l'attention internationale, Gaza et ses 3 millions de personnes en besoin humanitaire, est en 19e position sur le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire. Alors maintenant, dans la réalité des prises de décision des Nations Unies, toutes ces catastrophes ont-elles été vraiment traitées en 2025 par leur degré d'urgence? La réponse, je vais vous la donner. Et à ce sujet, j'ai compilé pour vous l'ensemble des résolutions et décisions prises par les Nations Unies en 2025. Et le bilan est sans appel. Le conflit israélo-palestinien a fait à lui seul l'objet de 17 résolutions onusiennes en 2025 et 30 déclarations du secrétaire général de l'ONU. C'est énorme. En comparaison, le Soudan et les attaques meurtrières lancées par les forces de soutien rapide, entraînant la mort, selon les dernières estimations, de plus d'une centaine de milliers de personnes et poussant 30 millions d'autres en crise humanitaire, n'a fait l'objet que de 4 résolutions des Nations Unies. 4 seulement. Parlons de l'Afghanistan et de sa crise humanitaire dramatique touchant 22 millions de personnes et les violations de plus en plus flagrantes des droits des femmes. L'ONU n'y a consacré que 3 résolutions. À peine 2 résolutions pour la République islamique d'Iran qui n'a cessé de pendre son peuple à tout va cette année. Haïti, qui est devenue une zone de non-droit en prise aux mains des gangs, n'a fait l'objet que de 4 résolutions. 3 également à peine pour la Syrie qui compte, je le rappelle, 16 millions de personnes en situation d'urgence humanitaire. L'écart est fulgurant. On a donc sur le podium une situation en première position qui condense 17 résolutions et en seconde position une situation qui en condense 6. 17 pour un conflit concernant 15 millions de personnes en comparaison de 6 résolutions pour le Congo et ses 112 millions de personnes, le Soudan et ses 51 millions ou l'Ukraine et ses 39 millions de personnes. Et en 2025, nous n'avons pas eu une seule décision de l'ONU concernant le Venezuela, pas une seule non plus sur la Chine et les Ouïghours, rien sur Taïwan et pire encore, rien sur le Nigeria et ses massacres religieux en masse. Alors, le but de cette chronique n'est pas de dire que parce qu'une crise touche moins de personnes qu'une autre, qu'elle doit être laissée de côté ou qu'elle est en est moins grave. Absolument pas. La vie d'une personne sur un point du globe vaut autant que celle d'une personne à l'autre bout de la planète. Mon propos est simplement de dire que la gravité doit être universelle, qu'il faut accorder au Nigeria, au Soudan, à l'Ukraine ou au Congo le même degré d'urgence que l'on accorde à Gaza. Pas de réduire d'un côté pour donner à l'autre, non, mais de donner autant. Car on parle beaucoup ces derniers jours de droit international et de sa valeur. Depuis la capture de Maduro par Trump, on se demande encore si le droit international vaut encore quelque chose. Ce que je crois, c'est que l'ONU n'a pas attendu la crise vénézuélienne pour faire vaciller les fondements du droit international. Car en focalisant ses décisions sur une seule partie du monde, en fonction des intérêts géopolitiques et financiers de chacun, elle a envoyé un message clair à toutes les vies en souffrance dans ce monde. Vos vies n'ont pas la même valeur et le droit international n'est plus du tout universel. Et sur ces réflexions, je vous dis à la semaine prochaine.